racing or watch it.
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson. Réalisation Olivier Guérin. Ce soir, Marie-Josée Sirache et Jean-Christophe Brianchon se font face à notre affiche art de Yasmina Reza. Mise en scène par les collectifs Tégestan et Dodepard, c'est au théâtre de la Bastille à Paris. Le radeau de la Méduse de Georg Kaiser, mise en scène Thomas Joly aux ateliers Berthier, Odéon, théâtre de l'Europe. Nous évoquerons aussi plus rapidement les mémoires d'un seigneur, pièce chorégraphique d'Olivier Dubois et Cendrillon de et mise en scène Joël Pommera, en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler de théâtre engagé. Et en fin d'émission, Boris Pinault passera un coup de fil à la chorégraphe Dorothée Munianeza pour son spectacle Samedi Détente qui se jouera demain, mardi, au Merlan, scène nationale de Marseille. Et puis il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Tokyo Danse, 3 solos, 3 danseurs chorégraphes de Tokyo, 3 facettes de la danse contemporaine. Ce sera pour samedi 24 juin à 20h à la Maison de la Culture du Japon à Paris, maison qui fête son 20e anniversaire. Direction le théâtre de la Bastille pour commencer avec le passage annuel, voire bisannuel du collectif flamand Tégestan qui co-signe avec un autre collectif, Dodepard, la mise en scène de art, pièce culte de Yasmina Reza, créée en 1994 dans une mise en scène de Patrice Kerbra, traduite en 37 langues, jouée dans les théâtres les plus prestigieux à travers le monde. Pour rappel, il s'agit de l'amitié des 3 hommes qui se trouvent remises en question lorsque l'un d'eux achète au prix fort une toile blanche avec de fins liserés blancs.
Mon ami, Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante, n'est-ce pas? Ok. Comment peux-tu dire cette merde?
Enfin, un peu d'humour, ça, je... Oui, les vieux, c'est prodigieux. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau.
Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends, quoi. Cette merde.
Tu te fous de moi, non?
Non, pas du tout, pas du tout. Cette merde. Par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose.
À qui tu parles en ce moment? Alors, hey.
Mais tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à la loi que tu ignores, est une merde?
Voilà une bonne question. Il faut avoir des références peut-être pour critiquer, aller savoir. On va essayer ici ce soir Jean-Christophe Brianchon sur cette version et cette vision de art.
Oui, alors comme vous le disiez, je pense qu'il n'y a pas besoin exactement de rappeler l'histoire puisque la pièce est culte, recouverte de prix depuis les années 80, 90.
94, sa création.
94. Donc voilà, on se retrouve dans le salon de Marc pour voir un petit peu de quoi il en retourne avec Serge et Yvan qui cherchent un petit peu à comprendre les raisons de l'achat de cette toile blanche par leur ami Marc. jusque-là, tout est bien respecté, on va dire. Le texte, même si le collectif avait le droit de le modifier, puisque Yasmina Reza a fait preuve de cette largesse, eh bien, ce texte est resté quand même assez respecté. Donc, voilà, rien de ce point de vue-là de particulier à dire. Je trouve, en revanche, que la proposition qu'on a été faite est, en termes scénographiques, assez assez intéressante, puisqu'on se retrouve dans un salon où l'homme est au centre, entouré de quatre spots, et autour de l'homme, les objets. Dans un premier temps, les hommes sont éclairés par les spots, puis au fil de la pièce, l'homme va finalement redevenir humain, et plus l'œuvre d'art qui était, alors qu'il était éclairé par ses spots, pour qu'ensuite les objets qui l'entourent le soient à sa suite, soient éclairés et redeviennent eux ces œuvres d'art dont on parle. Je trouve ça assez intelligent parce que finalement je trouve que c'est une pièce qui finalement, comme beaucoup d'œuvres de Yasmina Reza, manque singulièrement d'humanité. Finalement, on s'intéresse à une thématique, on fait parler des gens, mais on parle pas forcément de l'homme. Et là, en ayant remis de cette manière-là l'homme au centre du plateau, éclairé par ses spots, ça permet un petit peu, on va dire, de contrer, je pense, le manque de cette œuvre de Yasmina Reza, en remettant l'homme et la vie au centre, et plus seulement l'œuvre. Et ça, voilà, ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant.
Voilà pour ce premier regard, Jean-Christophe Brianchon. Marie-Josée Sirage, j'allais vous appeler Yasmina, mais non, Marie-Josée.
C'est une rencontre improbable au départ, je trouve, entre Yasmina Reza, auteur à succès, et le Tejesta, dont on connaît la particularité. Et je trouve qu'à l'arrivée, ça se tient. C'est assez intéressant, cette façon qu'ils ont de décortiquer la pièce. C'est vrai qu'ils ne la trahissent pas. Ils avaient le consentement de Yasmina Reza pour pouvoir visuellement s'amuser avec le texte, couper là où il aurait souhaité. J'ai relu la pièce, alors peut-être un peu vite, mais il me semble que tout est à peu près conservé dans leur mise en scène.
C'est quelques petits ajouts cependant, alors, de piste.
Il y a des sorties de piste très très tégestanes, mais sinon...
T'adresses au public...
Voilà, ça c'est leur marque de fabrique aussi, forcément. Ensuite, cette pièce, je l'ai trouvée... je ne l'avais pas vue monter sur scène. Je ne dois pas fréquenter les théâtres prestigieux où elle s'est montée. Mais c'est vrai que c'est une pièce...
C'était surtout prestigieux hors de France. Vous savez le problème que Yasmina Reza a dans ce pays. Mais c'était au Burgtheater, c'était la Schaubühne, c'était
en Angleterre,
à Broadway, c'était... bon.
Mais c'est une pièce... Finalement, le propos, alors, il peut sembler comme ça un peu léger, c'est une digression sur l'art contemporain, mais aussi sur la psychanalyse, les femmes, c'est-à-dire les épouses, et enfin l'amitié. Alors, effectivement, de par leur parti pris scénique, c'est l'amitié qui est au centre de l'enjeu, même si les questions sur l'art contemporain sont posées sur le plateau et même sur le châssis, puisque dans le décor, une grande bâche est tirée et posée sur le plateau, sur laquelle est un châssis retourné, et qu'ils vont tous les trois piétiner tout au long de la pièce. Alors la question que je me pose, et je n'ai toujours pas la réponse, mais s'agit-il chez Yasmina Reza de dénoncer les impostures de l'art contemporain, ou l'art contemporain comme une imposture ? C'est pas la même chose, parce que tout dépend si on a les codes ou pas, et à cette question-là s'ajoute aussi la question du marché de l'art qui vient un peu parasiter tout le débat esthétique que ont ces trois amis et autour de laquelle leur amitié va vriller et en prendre un coup jusqu'à un moment donné. Bon, voilà. Et c'est assez intéressant. Elle a été écrite, comme vous le rappeliez, en 94. Je trouve qu'elle n'a pas perdu de son actualité, de ce questionnement-là. Il est toujours là. On a reparlé de l'art moderne, de l'art contemporain à l'occasion de l'anniversaire de la création de Beaubourg. Et c'est vrai que c'est toujours une question qui revient sur, finalement, la place de l'artiste, la place qui est... dont on parle peu, si ce n'est pour ou être médisant ou voilà, ou sinon s'enflammer autour de records battus voilà, dans des ventes aux enchères ou pas, voilà.
Mais moi je l'avais jamais vue en vrai non plus, je la connaissais en vidéo cette pièce. Alors cela étant, elle sera reprise, la mise en scène par Tresker Bras en janvier 18, alors au théâtre Antoine, ou au théâtre ce seront Charles Berling, Jean-Pierre Taroussin et Gérard Fromager qui reprendront les rôles. On a quand même envie d'y aller voir. Il me semble, alors, est-ce que ce sont les TG Stan et le parti pris indiqué par Jean-Christophe Briançon, ou est-ce que c'est la pièce elle-même? Il m'a semblé que la question de l'art, de l'art contemporain, était quand même plutôt un révélateur que le sujet. Il est traité de façon quand même, me semble-t-il, un peu amusée, mais pas forcément très critique dans l'écriture, m'a-t-il semblé, par Yasmina Reza. Le marché de l'art est davantage critiqué que l'art contemporain, parce que c'est pas parce qu'une chose vaut cher qu'elle est forcément bonne. Bon, ça, on peut l'entendre tous les jours et on peut le constater aussi tous les jours. Et c'est pas parce que un tableau est vendu à très bas prix qu'il n'a pas d'immense qualité. Et je crois que c'est vraiment centré sur cette relation d'amitié et que le prétexte aurait pu être autre. C'est vrai que l'originalité, c'est quand même de se baser sur cette toile qui, en même temps, est forcément métaphore facile de surface de projection, et de toute façon sur une toile blanche on peut voir tout ce qu'on veut, et donc chacun peut se livrer à ses commentaires. Cela étant, c'est l'importance quand même très grande que Yasmina Reza accorde à chacun des mots, chacune des virgules, voire chacun des silences qui sont toujours indiqués dans ces textes, silence ou pause. Et c'était donc quand même assez intriguant de voir comment ces collectifs flamands ici réunis allaient s'emparer de cette écriture qui est très entomologique, giste. Bon, on verra. Les auditeurs convertiront dans la bonne façon. Si les digressions et donc si les mises à distance qu'ils opèrent, vous le disiez, c'est leur marque de fabrique, elle est dénaturer le propos. Alors c'est vrai qu'ils sont très respectueux, m'a-t-il semblé, du texte de Yasmina Reza, même s'il y a du hors-piste. Ils ont été beaucoup moins respectueux avec Tchekhov, avec Peter, avec Ibsen ou quelques autres. Mais toute la différence, quand même, on verra le trio qui sera à l'affiche en janvier 18, c'est quand même la qualité de jeu des trois comédiens, cette qualité, cette façon si particulière qu'ils ont d'attaqué presque chaque mot et chaque syllabe, de découper. C'est pas seulement parce qu'ils jouent en français alors qu'ils sont, ce n'est pas leur langue maternelle, on a entendu ce fort accent, c'est quand même quand on les entend et qu'on les voit jouer en flamand, ils ont ça accroche, c'est rugueux, il y a des aspérités partout, et je trouve que ça se marie très bien avec quand même une forme de férocité qui est dans l'écriture de Yasmina Reza. Jean-Christophe Briançon ?
Non, je suis assez d'accord, mais je trouve que ça a double tranchant aussi, parce que finalement il y a quand même il y a évidemment un ressort comique qui transparaît de ce jeu, du jeu de chacun des acteurs. Et je pense que c'est à double tranchant, dans la mesure où, d'une certaine mesure, c'est intéressant, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça permet de recentrer cette œuvre qui, je trouve, manque un petit peu d'empathie vers quelque chose de plus humain. Et en même temps, je trouve ça dérangeant, dans la mesure où ça, justement, ne permet pas de traiter ce qui aurait pu être traité, à savoir les réelles questions qui sont seulement envisagées, les questions sur l'art et indirectement du coup sur la politique, puisque faisant de cette pièce une pièce un petit peu drôlatique, finalement, qu'est-ce qui reste du questionnement? Pas grand-chose, et en plus, ça finit malgré tout, de temps en temps, par se retourner contre l'œuvre et contre leurs propositions, puisque finalement, en créant de l'empathie, finalement, ils ne créent chez nous que du rire vis-à-vis des personnages, et du coup ce rire transforme les personnages en ridicules, alors même que leurs questionnements individuels et personnels sur les œuvres dont il s'agit sont évidemment légitimes, puisqu'on se les pose tous, ces questions.
Oui, mais il y a quand même de la violence symbolique, il y a quand même une question de classe sociale, moi, m'a-t-il semblé, ça, c'est quand même présent.
C'est très présent, mais très présent avec un recul créé, une espèce de distanciation créée entre eux et nous. Finalement, on est les spectateurs qui regardons, vous avez parlé d'entomologie tout à l'heure, je trouve que c'est assez juste, on est les spectateurs qui regardons les animaux dans une cage. Et les animaux qui finalement ne sont que les, on va dire, sont ceux qu'on n'aimerait pas être, quoi, en fait. Et par le rire, ça crée ça. Et je trouve ça assez dérangeant, même si évidemment ça permet aussi à la pièce d'avoir une mécanique terriblement huilée et terriblement efficace.
Marie-Josée Sirache ?
Moi, j'ai éprouvé de l'empathie quand même pour ces personnages-là. Qui
moi
sont
aussi.
Trois garçons, enfin trois hommes, qui sont dans un rapport de force, y compris entre eux. C'est un trio. Un trio, donc, avec des enjeux où chacun doit trouver sa place. Il y a une sorte de rivalité entre eux. Et en même temps, de complicité qui dure à l'épreuve du temps. Est-ce que l'achat, presque spontané de ce tableau hors de prix va-t-il briser ces 15 ans d'amitié? Là est peut-être la question, et tout tourne autour de cette amitié. Et finalement, sur quoi repose leur amitié, la sincérité, l'engagement, jusqu'où ils sont prêts à aller? Et que ce soit Serge, l'acquéreur du tableau, ou évidemment Marc, qui est le copain atrabilaire, qui on sent qu'il est dans une mauvaise passe, et finalement, il y a Yvan qui a un rôle un peu. C'est le copain médium, c'est-à-dire il sert d'intermédiaire, il veut tout le temps rabibocher les uns et les autres. Et je vais le nommer, mais je vais sûrement écorcher son nom, Gillis Biseval, qui a un monologue extraordinaire quand il arrive en retard à leur rendez-vous et qu'il raconte la scène de préparation au téléphone avec sa mère, sa belle-mère, enfin sa femme, pour son mariage.
Pour la rédaction du carton d'invitation
du mariage. Et il est incroyable, incroyable. Mmh. Et tous les trois sont magnifiques. Et c'est vrai que leur accent rajoute de la rugueur, presque même de la virilité, je trouve, dans leurs échanges. C'est pas fleur et mouche, c'est vraiment ils y vont, c'est physique, c'est un jeu très, ils sont très très ancrés sur le plateau, ils se changent, voilà, il y a des clins d'œil assez drôles, le bol d'olive que tend dans la pièce à un moment, devient chez les Tégestan un bac de 10 litres d'olive, enfin, et tout le monde se marre, enfin, c'est drôle en même temps. Je sais pas si c'est de la distanciation, je trouve qu'il crée une sorte de complicité parce que on pourrait être l'un d'eux ou l'une d'eux. Enfin, voilà, sur les histoires de l'amitié, comment ça marche l'amitié.
On pourrait, mais de fait, compte tenu de la situation, on n'en a pas envie finalement, puisque aucun ne paraît assez intelligent pour qu'on ait envie d'être l'un d'eux.
Oh, la mauvaise foi, ça existe chez les copains. Et les engueulades.
Bien entendu.
Non, mais pas, donc on n'a peut-être pas envie, mais peut-être qu'on peut se reconnaître pour partie dans
on s'y reconnaît, évidemment. Ce serait bien présomptueux de dire qu'on s'y reconnaît pas. Ce qui m'a dérangé aussi, dans une certaine mesure, c'est justement le fait que les personnages soient très construits. On sent que chacun des éléments de la vie de ces personnages permet une double lecture. On va dire une lecture au service de ceux qui n'ont pas la culture et une autre au service de ceux qui l'ont. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu condescendant aussi d'une certaine manière. Typiquement, Yvan travaille dans une imprimerie. Alors on voit bien le propos potentiel sur la reproductibilité technique des œuvres d'art et Walter Benjamin. On sait que Yasmina Reza y a pensé. Et pour autant, auprès de ses amis et auprès du public un petit peu basique qui potentiellement est celui de la représentation chaque soir, c'est simplement une manière de montrer que même le petit peuple se pose des questions, puisqu'il est ouvrier dans une imprimerie. Et cette espèce
qui sont
de
des ouvriers très qualifiés. Les ouvriers du livre ou dans les imprimés sont très influencés.
Pas,
la noblesse de la classe ouvrière.
Vous voulez que le journal paraisse demain, c'est ça?
Oui, c'est bon, il est tombé, là, il est parti à l'imprimerie.
Les formidables ouvriers du livre, a dit Marie-Josée.
Non, mais historiquement, c'est vrai.
Bien sûr, je pense simplement que c'était, c'est malin, mais c'est, je pense, un petit peu, peut-être condescendant.
Ou l'amitié est-elle plus forte que... On sent que c'est une amitié de jeunesse et qui perdure malgré effectivement des parcours différents. Peut-être ça aussi, qui...
Alors elle perdure, je ne sais pas, parce qu'on ne parlera pas forcément de la fin, mais...
Ah, on n'en parle pas, mais Xavier Martinet demande la parole, donc lui donne très volontiers.
Je voulais ajouter que je trouvais très intéressant que vous vous interrogiez sur les intentions de la pièce et puis aussi sur l'usage qui en est fait par le collectif Tégestan. Je voulais en parler à la marge là dans le sujet sur l'engagement au théâtre, mais précisément, il semble, alors c'est une pièce que je n'ai pas vue, dont on puisse dire qu'elle est au moins en recherche, on pourrait dire, d'engagement théâtral, de positionnement en tout cas, face à cette question à la fois artistique, esthétique et politique qui est la question question de l'art contemporain et de son irruption dans la société. D'accord. La deuxième chose que je vois, c'est qu'effectivement, et vous l'avez déjà un peu évoqué, cet usage qu'en fait Tejestan. Alors, je vois que Public Art apprécie beaucoup. Hein, c'est une version qui dit percutante. Si j'ai bien compris, ce collectif a effectivement connu pour ses mises en scène très percutantes, parfois burlesques. Voilà. Et par contre, c'est quelque chose que dit Fabienne Darge, je ne sais plus.
Dans le monde,
voilà.
Sauf si elle a changé, mais je crois pas. Non, je plaisante.
Pour Fabienne Darge, finalement, tout ce spectacle est un peu dévitalisé. Vous disiez peut-être absence d'humanité, mais en tout cas, c'est ce qui fait que pour Tejestan, c'est devenu une machine à jouer, en fait, et à faire de la performance scénique. Voilà. Donc je me disais, quel usage en fait aujourd'hui Tejestan de cette pièce qui elle-même est toujours en recherche de positionnement, qui n'est pas clairement du théâtre engagé. Voilà, tout ça est intéressant.
Oui, et on voit qu'on a des avis assez variés sur cette question. Moi, je crois que c'est une rencontre heureuse, moi, entre Tejestan et Dotpard,
oui,
qui sont deux co-signés, et l'écriture Yasmina Reza. On trouve tous les trois pour des raisons un tout petit peu différentes, c'est-à-dire la richesse de cette proposition, art en tout cas, de Yasmina Reza, mise en scène par ses collectifs Tejestan et Dotpard. C'est jusqu'au 30 juin au Théâtre de la Bastille à Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans la dispute, Joël Pommerat, Thomas Joly, Olivier Dubois, Dorothée Mounialesa. Mais avant cela, Xavier Martinet, que nous suivons dans le Petit Salon. En effet, cher Xavier, cette question qui nous taraude, qui vous taraude, qui nous taraude à votre suite, où est le théâtre engagé ?
Mais où est-il
bon
passé ?
Bon sang de bois !
Eh oui, je me suis posé cette question vraiment vitale, puisque récemment, deux pièces de Bertolt Brecht, il faut reprendre par la base, viennent d'être remontées. Vous en avez parlé dans la dispute de ces deux pièces. Ce sont Bâle, un texte de jeunesse qu'on pourrait qualifier de fausse postmoderne, et puis La résistible ascension d'Arturo Huy. Ce qu'il faut noter, c'est que ce sont deux pièces contrastées, comme remarquait le Financial Times. De la première, donc écrite par un dramaturge pas encore devenu un héros du communisme, disait Fabienne Darge encore dans Le Monde, eh bien, si Bâle est engagé, c'est avec lui-même, seul contre tous. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une pièce d'engagement politique. Dans le Financial Times, toujours, Laura Capellé parlait d'une pièce tournée en une fable sur les soi-disant artistes torturés. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que La résistible ascension d'Arturo Huy trouve plutôt grâce à ses yeux. Il a beaucoup mieux vieilli, dit-elle, et c'est exactement le genre de production qui mériterait d'être vue hors de Paris. D'ailleurs, majoritairement, ce Arturo Huy a plu, alors qu'un précédent, lui, monté par Dominique Pitoiset, a plus divisé. C'est intéressant, il était montré en novembre 2016, c'était en pleine campagne électorale et les primaires UMP, avec un parti pris de mise en scène radicalement différent. Dominique Pitoiset coupe dans le gras brechtien, à la trappe le folklore américain, à la trappe aussi les adresses au public, ces panneaux qui rappellent le contexte allemand, écrivait Le Temps, qui voit dans cette pièce et le jeu aussi de Philippe Torton, donc l'acteur principal, un sort fait à Nicolas Sarkozy pour Le Temps, pour qui Philippe Torton, pardon, pour qui jouer Arturo Huy d'ailleurs, c'est m'engager. Cénéweb, lui, reconnaît un spectacle éminemment politique et revendiqué comme tel, où les vidéos de manifestations contre la loi travail glissent vers celles de l'incendie du Reichstag. Les phrases de Brecht entrent en résonance avec 2016, conclut-il, mais précisément pour cette raison, Armel Hélio dans Le Figaro regrettait une mise en scène trop appuyée ou trop ambigu, comme par exemple l'alliance du cœur des esclaves et d'images d'attaque des policiers par la mouvance autonome. Alors pas de gras, trop de gras, difficile en tout cas de représenter, et même avec une nouvelle traduction comme c'était le cas de la mise en scène de Dominique Pitoiset, ce monument, comme l'ont souligné beaucoup de journaux. Même la version de la Comédie française a ses défauts, elle est besogneuse, écrivait Fabienne Pascaud. Voilà en tout cas pour le monument, Arturo Huy reste régulièrement joué, mais surtout Bertolt Brecht continue d'inspirer. Autre forme brechtienne fine et assumée, ça c'est Théâtre Online qu'il écrivait, c'est celle de Julie Timmerman qui monte là une pièce sur Edward Bernays, neveu de Freud, publicitaire pour de grandes compagnies et qui a poussé l'art de la propagande, on pourrait dire, au point de participer activement au coup d'état antidémocratique de 54 au Guatemala. Alors là aussi c'est vraiment frappant, portrait sur scène, panneau chronologique, référence volontaire ou pas, c'est vraiment une ressemblance. En tout cas cette pièce sera au Off d'Avignon. À noter noter que ce spectacle aussi est produit par la compagnie qui s'appelle Idiomécanique Théâtre. C'est un collectif et voilà où je voulais en venir. Il faut remarquer le travail des collectifs de théâtre dans, en tout cas, la production aujourd'hui de théâtre engagé. On a parlé de Art de Yasmina Reza. Le succès, en tout cas, en ce moment en France, est du côté de la dernière pièce du collectif des Chiens de Navarre, Jusque dans vos bras, un spectacle qui aboie l'identité nationale, ça c'est ce que dit le Progrès de Lyon, mais qui ne se contente pas d'aboyer, dites-vous Marie-Josée Sirac, dans l'Humanité. Ils sont affreux, sales et méchants. Voilà plus de 10 ans que leur théâtre est foncièrement désobligeant, provocateur, hilarant. Comme illustration d'ailleurs, vous avez choisi cette scénette où deux astronautes tentent désespérément de planter un drapeau français sur la Lune. Globalement, si on voit le passage fait de Brecht jusqu'à ces collectifs, on garde parfois le burlesque ou le comique, c'est parfois plus sombre, plus cru, plus féroce, vous disiez Arnaud. Et puis les collectifs encore, j'en dis juste un mot, qui sont à l'œuvre dans Angelus Novus Antifaust de Sylvain Creusevaux, qui a déjà été montré à la Colline, qui sera à Montpellier. Là, c'est une pièce qui brasse le thème du pacte diabolique de Goethe dans le brouet de l'actualité la plus sombre, écrivait Anne Diatkine dans Libération. Et puis, il faut dire un mot aussi peut-être du travail de Rodrigo Garcia et Romeo Castellucci, qui ont su provoquer quand même des troubles à l'ordre public dignes des paravents de Jean Genet. Et Castellucci d'ailleurs qui revient en ce moment avec une autre pièce, une histoire d'Amérique, tout en symbole, peut-être de mieux en mieux, pas forcément directement engagé, qui n'est pas une tentative de donner une réponse à la situation politique actuelle, disait Romeo Castellucci. Alors en tout cas, qu'il soit revivifié par les collectifs ou par des individualités, le théâtre engagé a de beaux jours sans doute devant lui en France, faut-il s'en étonner ?
S'en étonner, non, s'en réjouir, peut-être, savoir quel type d'engagement. À vous écouter, je pensais aussi que Maëlle Poésie avait failli voir juste, puisqu'on avait parlé de Ce qui a ne se trompe pas, présenté au dernier Festival d'Avignon, qui parlait d'un peuple appelé à voter et qui ne se présentait pas aux urnes, avec un taux d'abstention qui allait frôler les 100%. Bon, la pièce a ensuite se déroulé autrement, mais il allait se passer des choses, et en tout cas, c'est une pièce qui interrogeait directement la question de la représentativité, de la démocratie et autres. Angelus Novus, c'était peut-être pas la plus grande réussite de Sylvain Creusevaux. On en a débattu ici en termes pas très agréables peut-être à entendre, alors que c'est quelqu'un qui précédemment a fait un travail quasiment toujours sur la question politique à travers différentes figures de la terreur à Karl Marx. Et puis bien sûr, quand j'entends Philippe Torreton dire que jouer Arthur Oui, c'est s'engager, c'est surtout, il y a eu un engagement pour jouer Arthur Oui, on peut dire comme ça. Il faut quand même pas exagérer, non, Marie-Joëlle Sirache? Non, c'est un peu fort de dire des trucs pareils. Et pitoiser, c'est pas la finesse non plus qui a étouffé sa mise en scène.
Certes,
pardon.
Vous laissez sans voix.
C'est vrai.
Bon, c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. C'est, est-ce qu'on parle du théâtre engagé, du théâtre politique?
C'est quoi le distinguo pour vous?
Justement, je ne sais pas. J'étais en train d'essayer de. Enfin, je réfléchissais, mais là, j'ai pas le temps de réfléchir, donc tant pis.
Dominique Pitoiset voulait remonter les mains sales au début.
Ouais. Alors il y a le choix des auteurs. Il y a le choix des auteurs. Alors, effectivement, Brecht, c'est même pas la peine d'argumenter quand on monte un Brecht, parce que de suite ça fait théâtre politique engagé. Ensuite, il y a tout ce que vous disiez à propos des collectifs qui vont eux travailler autour d'écriture au plateau, d'improvisation, de l'actualité, comment ils la retriturent, comment ils se saisissent de tout ce qui peut se passer dans le monde, des bruits du monde. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a là un théâtre engagé et engageant souvent parce qu'on a de belles surprises et donc c'est toujours intéressant d'aller à leur rencontre. Je trouve que depuis 70 ans, on va célébrer cette année les 70 ans de la décentralisation. Le ministère se réveille un petit peu. J'ai pu voir passer aujourd'hui un communiqué de presse que je n'ai même pas eu le temps de lire, mais enfin il était
temps. Vous avez le temps de rien, Marie-Josée, quand même. C'est fou.
Non, ce matin, j'étais à la remise du prix de l'association de la critique dramatique. Donc, les 70 ans de la décentralisation, pour moi, c'était des hommes et des femmes qui sont engagés, qui ont fait du théâtre engagé. Ils sont allés dans des endroits où il n'y avait pas du théâtre, contre vents et marées, sans le sou. Et c'est ensuite qu'on a, que les ministères se sont intéressés à eux, et notamment avec Malraux, heureusement, il y a eu toute mais ils sont allés dans des banlieues, dans des no man's land, ils sont allés dans des territoires à Saint-Étienne, du côté de Lyon. Enfin bon, voilà, il y a eu comme ça des mouvements à Toulouse. Il y a eu des mouvements qui ont témoigné de la volonté des hommes et des femmes du théâtre de raconter le monde, de le décrypter, de donner envie de réfléchir, de rire aussi, parce qu'il n'était pas que voilà. Et théâtre engagé ne signifie pas non plus théâtre triste et ennuyeux. C'est voilà, il y a des choses extrêmement jouissives. Ensuite, on monte peu sur les auteurs. Alors Brecht, effectivement, c'est une facilité, je dirais. D'autres auteurs comme Genet, Gatti ou Katabiassine, ou même voilà, c'est plus difficile. On ne sait pas trop comment les prendre. C'est truffé de didascalie. Est-ce que les pièces ont vieilli ou pas? Mais comment on pourrait s'en réemparer? Et puis, il existe aussi d'autres metteurs en scène, comme vous parliez de Creusevaux, mais on pense aussi à Pommerat quand il fait Fan Louis Saïra. C'est un théâtre engagé, politique, je ne sais pas comment dire, mais enfin qui pose la question de la démocratie, la fabrique de la démocratie, 200 ans après. Et le petit Maël Poésie qui finalement. C'est incroyable, ce spectacle-là, qui raconte l'abstention, enfin le vote blanc, a été rattrapé par notre actualité aujourd'hui.
Quand vous dites le petit.
Enfin, petit, c'était pas un petit spectacle, c'était un joli spectacle. D'accord. Moi, je l'ai beaucoup aimé.
Oui, oui, pour ça, je pensais. Il me semblait bien. Jean-Christophe Brianchon, engagé politique, vous faites un distinguo?
Alors, je suis un peu comme Marie-Josée, je ne sais pas exactement. Enfin, je ne suis pas tout à fait certain du distinguo. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que le théâtre engagé, selon moi, doit avoir un rapport avec le risque. Or là, on parle de Maël Poésie, on parle de Philippe Torton, même d'Angelus Novus. Je ne suis pas certain qu'on puisse tout à fait parler de risque. Et ça me dérange un petit peu de parler de théâtre engagé quand on parle de ça.
Vous parlez, ça dépend de quel risque vous parlez alors.
Je pense que le risque il peut être au minimum intellectuel, au pire physique, je ne sais pas pourquoi pas.
D'accord.
Et on parlait de la décentralisation 70 ans, là c'était un risque. Aller jouer dans ces endroits-là, de cette manière-là, ces textes-là, à ce moment-là, c'était un risque. Un risque, là peut-être physique, je n'ai pas connu l'époque, mais j'imagine. Bon, aujourd'hui, on a Philippe Torreton qui a l'impression de s'engager en jouant Arthur Oui. Je suis pas tout à fait certain que ce soit vrai. Ou en tout cas, si c'est vrai, c'est en tout cas pas plus vrai que pour n'importe quelle pièce, puisque je pense aussi que le théâtre est par essence engagé de toute façon. Quel que soit le texte, quel que soit le geste, quel que soit le jeu, le théâtre est engagé, évidemment. Donc c'est un petit peu tautologique de parler de théâtre engagé quand on propose quelque chose qui n'est pas un risque. Et ça me dérange.
Xavier Martinet.
Oui, cette question de distinguer entre les différents théâtres engagés, c'est vrai que je ne l'ai pas fait en vous écoutant. Il y a cette grande question, effectivement, de l'engagement physique des scènes de théâtre dans la décentralisation, la délocalisation des scènes. Il y a aussi une question dont je n'ai pas parlé, mais à écouter les artistes, ça revient souvent quand même, c'est l'engagement du corps sur scène. Et puis là, pour le coup, où on parle beaucoup de prise de risque, c'est lorsqu'on reste des heures sur scène à faire des performances extraordinaires. Voilà, il en est question. Du côté du texte, par contre, et de la manière dont le texte s'engage lui-même dans la vie, on va dire, si on prend Brecht et qu'on dit que grossièrement c'est un théâtre de la dénonciation, que c'est là son risque, qu'il lui faut aussi quand même un déguisement comique peut-être pour avancer, qu'aujourd'hui c'est très difficile de faire un théâtre comme ça en raison de cette histoire, et qu'on reparle du travail des collectifs qui justement remettent à jour, ou en tout cas empruntent un bon nombre d'artifices qu'on pourrait dire au cirque, au burlesque, au grotesque, voilà. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, il me semble, est-ce qu'on pourrait pas parler de, en gros, puisqu'ils s'engagent dans l'actualité directement, quitte à incarner parfois des discours, à aboyer l'identité nationale par exemple, est-ce que c'est pas défigurer l'actualité et que c'est là l'engagement, peut-être rendre moins beau ce qui est a priori donné comme le beau tout près, cette actualité qu'on est capable d'ingérer, eux la rendent iningérable, je sais pas, peut-être c'est pas le terme.
Iningérable, c'est pas mal, moi j'hésitais tout à l'heure.
Peu comestible.
Sur mon entomologique ou giste, mais je pensais aussi, en vous écoutant, au tumulte de Marion Aubert, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, qui était clairement une proposition politique, mais qui ne refusait pas non plus la farce, le cabaret. Enfin, c'est pas la question. La question de la forme est importante, mais c'est la question du propos. Moi, c'est comme ça que je l'entends quand même, le théâtre engagé, l'engagement physique. Il peut être chez Rodrigo Garcia en même temps que l'engagement politique, et il l'est la plupart du temps. Jean-Christophe ?
C'est bien dommage d'ailleurs, je trouve, de séparer tout ça, puisque je pense que le théâtre engagé politiquement se doit de l'être formellement, évidemment, et c'est là qu'il devient percutant.
Oui, Brecht, mais pour ça, remonter Brecht, moi je vois pas l'intérêt.
Mais on revient toujours sur Brecht, mais parce qu'on remonte pas, peut-être pas les bonnes choses, ou peut-être pas, peut-être qu'il faudrait s'attaquer à autre chose qu'à ces textes théâtraux. Essayons de monter, d'adapter l'Arbeit Journal. Bon, bah. Courage. Ouais. Je suis sûr que là, c'est difficile parce que là, il y a vraiment le montage brechtien est au cœur du projet. Et essayons de le monter, ce sera peut-être plus intéressant que Mère Courage pour la 150e fois.
Voilà, défi lancé.
Je voulais juste donner deux spectacles qui, pour moi, ont été créés cette année et qui sont symptomatiques du théâtre, ce que j'entends moi par théâtre engagé, théâtre politique. C'est les textes de Sonny Labutanzi par Dieudonné Nyanguna. Mmh. Et c'est, donc, c'est production publique, théâtre public. Mmh. Et une autre pièce que j'ai vue à la Loge Théâtre, c'est Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, par la Compagnie Nova, Margot Eskenazi et Alice Carré, à partir de trois auteurs, Aimé Césaire, Saint-Gor et Léon Contran Damas, et c'est magnifique, magnifique, avec une troupe de jeunes acteurs qu'on n'a jamais vus, qui jouent, qui dansent, c'est d'un humour, c'est foisonnant, et ceux-là ont pris des risques. On est peu de journalistes à les avoir vus, mais c'est pas grave, il y a le bouche à oreille, ils vont continuer, ils sont courageux, ils ont la pêche, et c'est extrêmement intelligent.
Le prix du théâtre engagé, on pourrait le décerner à la Loge, parce que voilà un endroit qui prend des risques, c'est vraiment engagé. Il y en a d'autres, il y a l'échangeur, la ménagerie de verre, la liste est longue, mais là vous parlez de la Loge, donc grand salut à la Loge. À la Loge. Non, je parlais de Grand Prix, puisqu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'association professionnelle de la critique de théâtre, de musique et de danse, à laquelle vous êtes étroitement associée, me semble-t-il, Marie-Josée Sirage, vous êtes toujours présidente ou...
Absolument. Présidente. Enfin, toujours. Je suis de nouveau présidente. Je n'avais pas été réélue pendant trois ans.
Je vais y arriver. Non, c'est un très très beau palmarès que j'invite tout le monde à regarder sur le site de l'association critique tmd.com, c'est comme ça que ça se fait, notamment le Grand Prix pour 2666, vous pensez bien, Gérard Watkins comme meilleur comédien pour Songes et Métamorphoses, c'était temps qu'il soit mis à l'honneur, enfin il y a de très
Dorine,
très beaux prix.
De David Jesselson pour la meilleure création d'une pièce en langue française. J'ai été préparée parce que l'an dernier vous m'aviez coincée, et je n'étais pas du tout prête.
Je ne coince personne, je m'intéresse à l'actualité.
C'était la question du jour, je n'avais plus les noms en tête, c'est terrible.
Bon. Donc du coup, je l'ai imprimé, j'avais oublié l'an dernier que vous l'aviez ressenti comme ça. Coincé, je vous coince. Vraiment consulter cette liste parce qu'il y a des palmarès toute l'année, mais celui-là, il est vraiment beau. Et c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, Marie-Louise Sirage, parce que...
Et c'est pas parce que vous votez.
Non, j'ai pas voté en plus cette année, donc je suis pas à jour de cotisation, donc je n'ai pas voté. Je suis très légaliste, moi. Chacun ses névroses. Marie-Josée, allez, je vous laisse souffler. Je demande à Jean-Christophe de nous parler d'Olivier Dubois, alors, une recommandation.
C'est pas à jour de ses cotisations.
Bah, c'est vrai, je suis pas à jour de mes cotisations. Donc j'en prends acte, j'en tire les conséquences. Jean-Christophe.
Eh bien voilà, Olivier Dubois justement, je l'ai choisi au départ un petit peu par défaut, mais finalement à la suite de la discussion qu'on a eue, j'en suis très content parce que je pense qu'il représente avec cette pièce en tout cas, parce que je suis pas un fin connaisseur, exactement l'engagement qui aujourd'hui fait du bien, parce que justement les pièces que j'ai vues ces derniers temps sont, je trouve, un petit peu molles compte tenu du temps, et là lui il propose quelque chose d'assez difficile. C'est une pièce chorégraphiée entièrement dans le noir, c'est un solo donc d'un jeune homme qui au départ semble se battre contre lui ou contre le système, on sait pas trop, système représenté par une table qui ressemble vulgairement à une table qu'on pourrait trouver dans une administration quelconque. Tout commence comme ça jusqu'au moment où il jette la table en travers de la scène et le rejoignent 40 danseurs amateurs torse nu et s'engagent entre eux et lui une danse combat dont on sait exactement où elle mène, si ce n'est au contact et à l'humanité. J'ai trouvé ça absolument sublime.
Ça s'appelle Les Mémoires d'un Seigneur, et demain soir, mardi 20 juin, dans un lieu qui lui aussi fait du bon travail, c'est Londres Théâtre, Centre d'Art de Vélizy, Villacoublay, pour cette pièce chorégraphique d'Olivier Dubois. Comme on est très en retard et qu'on a parlé une dizaine de fois, je pense, de Cendrillon de Joël Pomeran dans cette émission, on va aller relativement vite, Marie-Louise Sirage,
très vite,
mais il n'en reste pas moins que je considère, en effet, que c'est peut-être la meilleure pièce de ce très grand auteur et metteur en scène. Cendrillon est repris au Théâtre de la Porte Saint-Martin, on ne l'attendait pas forcément.
Absolument, c'est une reprise puisque le spectacle a été créé en 2011 et c'est un plaisir renouvelé que d'aller voir ce spectacle-là qui est une de ces trois pièces jeune public, on pourrait dire.
Après tout le public. Petit
oui, mais plutôt tout public parce qu'effectivement, c'est pas spécifiquement pour la jeunesse.
Quand c'est bien, c'est pour tout le monde.
Absolument. Et après, le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio. Donc, c'est sa lecture de Cendrillon, qui s'appelle Sandra. C'est une histoire de deuil impossible, de résilience, avec une marâtre absolument méchante, obsédée par la quête de l'éternelle jeunesse. Une Cendrillon qui, obsédée par sa mère, parce que tout part au moment de la mort de la mère sur un malentendu. C'est-à-dire qu'elle ne elle entend mal les derniers mots prononcés par sa mère. Et à partir de là, sa vie est totalement, elle vit en vase clos, puisqu'elle doit, tout le temps penser, elle a fait le serment de penser uniquement à sa mère pour pas qu'elle meure, enfin bon. Et dès lors, l'histoire de Cendrillon, évidemment, elle va faire la rencontre du prince qui est pas si charmant que ça, mais qui est adorable, enfin qui est extrêmement sympathique et qui se retrouve lui aussi confronté au même deuil impossible. Et ce qu'il faut rappeler, c'est les décors qui sont fabuleux, uniquement basés sur la lumière. C'est un théâtre de l'illusion pure, une maison de verre, sans barreaux, mais dans lesquels ces personnages ont des barreaux dans la tête, donc voilà, ils sont là. Les oiseaux viennent s'écraser contre les parois de verre. C'est terrifiant, c'est drôle. Il y a la fée. La fée, c'est une fée qui a 800 ans, qui n'en peut plus d'être fée, qui s'ennuie, mais heureusement qu'elle est là et qu'elle va permettre à Cendrillon de se libérer, de s'émanciper et de devenir une jeune fille libre et belle et joyeuse.
Scénographie et lumière d'Éric Soyer, complice évidemment de Joël Pommerat depuis très longtemps.
Depuis toujours,
vraiment, je voulais dire un mot.
Éric Soyer, que j'aime particulièrement et qui en ce moment est au Théâtre de la Ville avec Réparer les vivants. Il fait également les lumières de cette pièce. Et c'est
la mise en scène de Sylvain Maurice.
Sur la mise en scène de Sylvain Maurice.
Bon, voilà pour l'information. On ferme vite cette petite page.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute, une dispute courte pour un spectacle créé lors du dernier festival d'Avignon, Le Radeau de la Méduse de Georg Kaiser, mise en scène Thomas Joly avec 23 jeunes artistes formés à l'école du Théâtre National de Strasbourg, dont les 12 élèves interprètes présents sur le plateau ou dans le canot plutôt, puisque le point de départ c'est 1940, des jeunes enfants anglais qui se retrouvent donc dans un canot puisque le bateau avec lequel ils fuyaient la guerre a coulé, ils s'organisent pour survivre, mais jeunes chrétiens qu'ils sont, ils ne tardent pas à se compter et découvrent au malheur qu'ils sont 13.
Nous allons fouiller le bateau. Dans chaque canot de sauvetage, il y a des provisions qui suffisent à un équipage adulte pour plusieurs jours. Nous sommes encore des enfants et n'avons pas besoin de manger autant. Je peux manger très peu et me sentir bien nourri comme si j'avais mangé beaucoup. Celui qui veut peut avoir la moitié de ma part.
Moi, je ne la prendrai pas. Certainement pas.
Celui qui accepte ça d'un autre ne se conduit pas comme il faut.
Non, il se conduit franchement mal.
Il ne pourrait pas s'attendre à ce qu'une fille sur ce canot s'intéresse à lui.
Les filles devraient avoir davantage à manger que nous, les garçons.
Non, 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 plus, non, 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 non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non. Vous n'entendez pas? Vous ne pouvez pas continuer de manger? Nous sommes 13!
Ici, il y a bien place pour 13!
Il y a place pour davantage! Pour 14, 15, 16! Mais il ne faut pas qu'on soit 13!
Qui exige cela?
Qui l'exige?
Ah oui! J'avais envie et ne connais rien de la navigation!
Ça n'a rien à voir avec la navigation!
Avec quoi alors?
La religion chrétienne!
Tu n'es pas un chrétien!
Le Radeau de la Méduse, un spectacle que je n'ai pas eu l'occasion de voir, donc je vous écoute. Marie-Josée Sirage, pour commencer.
Écoutez, je trouve que c'est très intéressant comme travail, avec la sortie du groupe 42 du TNS. La pièce, comme vous le disiez, donc, raconte un épisode vrai, le torpillage d'un bateau qui emmenait des enfants britanniques au Canada pour éviter les bombardements allemands. Le travail est assez, il est très juste. D'abord, l'idée de les avoir mis vraiment sur ce grand canot sur Seine, et ce canot va tourner au fur et à mesure. Alors avec voilà beaucoup de références bibliques, les 13, 12 ou 13, les 13, les 12 apôtres et Jésus, les 7 jours sur le radeau, le tu ne tueras point. Ce sont des enfants qui tout d'un coup se trouvent confrontés par l'horreur de la guerre à s'exercer à la rhétorique religieuse, politique, à s'affronter. Mais en même temps, ce n'est pas du tout grandiloquent. Je trouve ça assez intéressant. On évite cet écueil-là. Ils vont, et deux parmi les 12 vont s'affronter de manière assez violente. Et puis ça va être argument contre argument sur l'interprétation des textes. Et en même temps, il reste des enfants, puisqu'ils vont se marier. Mais il y a de l'amitié, il y a de l'amour et de la trahison. C'est assez incroyable. La fin, on ne la dévoilera pas, mais elle est dure, elle est belle et elle est dure en même temps.
Jean-Christophe Briançon ?
Je suis d'accord avec Marie-Josée sur le fait que Thomas Joly a pour une fois évité l'écueil de la grandiloquence. Ce que je trouve assez remarquable, puisque c'est souvent ce que j'ai pu lui reprocher, entre guillemets. Ce qui m'a également beaucoup intéressé dans sa démarche à lui, c'est réellement la façon qu'il a eu d'assumer jusqu'au bout l'ultra-théâtralité de son geste. Donc là, il y a ce radeau sur un plateau vide, autour duquel on voit tout. On voit les régisseurs, on voit tout. Le théâtre est là, on est au théâtre, c'est montré, c'est crié, non seulement par ce fait-là, mais aussi par le maquillage des comédiens, qui est très très prononcé, alors même qu'ils jouent dans la pénombre, donc ça n'a pas forcément de sens, mais au moins ça appuie l'ultra-théâtralité du geste, et je trouve ça intéressant, voire même assez touchant, parce que ça démontre la croyance qu'il a dans l'importance de cet art, et je trouve ça assez chouette. Après, il y a quand même... je trouve toujours une utilisation entre autres de la lumière et en l'occurrence surtout de la fumée que je trouve assez dérangeante parce que ça transforme de temps en temps le geste théâtral en pur spectacle et moi c'est quelque chose qui évidemment, alors je dis évidemment, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en tout cas qui pour moi est un écueil terrible. J'ai horreur quand le théâtre se transforme en spectacle et de temps en temps chez Thomas Joly on a l'impression de voir un spectacle de Robert Hossein qu'aurait pu être au Palais des Glaces. Et ça, je trouve ça un petit peu dérangeant. Donc là, cet écueil est évité de justesse, mais quand même, de temps en temps, on y retrouve quelques traces. Et c'est un peu dérangeant. Après, le texte en lui-même est très beau.
Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont vu ce spectacle. Certains avaient quand même de grosses réserves sur ce texte, sur son côté un peu... justement lourd dans la rhétorique. Bon, ce sont des très jeunes gens, donc il y a peut-être...
Ils ont 12 ans.
Il y a peut-être aussi des arguments qui ne sont pas d'une très 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 haute volée. J'ai entendu des choses un peu sur un texte un peu laborieux. Est-ce que c'est parce que vous avez ressenti Marie-Josée Sirach?
Vraiment pas, parce que effectivement c'est délicat. On pourrait penser, étant donné l'enjeu, que voilà, on va basculer dans quelque chose d'extrêmement faux. Pas du tout. Ces mômes-là posent des questions, mais bon, je le voyais parce que j'étais à côté d'un jeune spectateur, en l'occurrence mon fils de 12 ans, qui était dedans totalement. Mmh. C'est-à-dire que ce questionnement, aujourd'hui, on parle de religion à l'école. Mmh. Pour un gamin de 12 ans, c'est totalement banal. Voilà, c'est banalisé avec des arguments ou pas. Eux ont des arguments puisqu'ils ont une éducation religieuse et ils vont s'affronter sur l'idée du dogme. Et l'un d'eux va s'opposer au dogme qu'on entend dans les prêches, qui sont transmis par les éducateurs, enfin les pasteurs. Les prêtres, et lui va résister alors qu'il est lui-même, il a lui-même cette éducation. Mais comment l'un d'eux parvient à s'émanciper? Il y a l'idée du bouc émissaire, lui prend la défense du petit renard, qui est ce petit gamin qui est plus jeune, qui est muet. On peut imaginer que c'est dû au choc, à la violence des bombardements, et donc il ne parle pas, ce gamin-là. Et puis il y a la trahison, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à 12 ans, on se trahit aussi, on trahit ses amis. Là, l'enjeu étant de survivre, puisqu'ils veulent survivre. Et sur l'effet brouillard, effectivement, au départ, je trouvais ça un peu... Et il m'a fallu un petit temps, pas beaucoup, mais pour comprendre que quand même, ils traversent beaucoup de zones de brouillard. C'est ce qui les sauve aussi.
C'est ce qui fait littéralement, que... là, vous voulez dire
aussi. Ah oui, littéralement. C'est ce qui fait que ces enfants sur ce radeau peuvent survivre 7 jours physique. Avant d'être repérés. Il me semble, enfin... Je suis plutôt clément parce que moi aussi, je ne suis pas une inconditionnelle du théâtre de Thomas Joly, mais là, je trouve qu'il réussit quand même un joli objet théâtral.
Et un mot peut-être encore sur ses interprètes, puisque c'était donc cette promotion 42,
on entend beaucoup. Donc les deux rôles principaux sont tenus par Emma Liégeois et Rémi Fortin, qui est formidable.
Alors moi, j'ai trouvé Emma Liégeois absolument formidable, moi, mais bon, c'est un avis personnel, non, parce que je vois que Marie-Josée n'est pas forcément tout à fait d'accord, et j'en ai discuté avec un ami à moi en sortant de la pièce qui m'a dit qu'elle était terrible de fausseté, avec quoi je suis pas du tout d'accord. Je l'ai trouvé absolument formidable. J'ai trouvé justement qu'ils permettent, eux-mêmes étant jeunes et les personnages de la pièce étant censés être jeunes, ils permettent par leur jeu de nous faire comprendre ce que certainement l'auteur a voulu nous démontrer, qu'en fait, ces enfants, ce n'est rien d'autre qu'un prétexte pour nous montrer que finalement, tout le monde peut faire preuve de la barbarie dont ils font preuve, puisqu'à partir du moment où un enfant de 12 ans peut être barbare, a priori, le monde entier peut l'être. Et j'ai trouvé que par leur interprétation, ils arrivaient à nous faire passer ce message, et j'ai trouvé ça assez remarquable.
Ça me rappelle le dieu du carnage, Yasmina Reza, comme ça on boucle la boucle, sur la barbarie des enfants et donc de leurs parents potentiellement. Non, là on parlait du radeau de la Méduse de Georg Kaiser, mise en scène Thomas Joly, c'est jusqu'au 30 juin aux ateliers Berthier à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Dire ensuite que le spectacle part en tournée en Chine, figurez-vous. Le festival Croisement, le 7 juillet au théâtre, Grand Théâtre de Harbin. Le 12-13, ils seront à Pékin au théâtre du Millennium et au Grand Théâtre de Tianjin le 18 juillet. Retour vers nos contrées le 7 août au théâtre du Fort Antoine à Monaco pour ce radeau de la Méduse. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil à passer à Dorothée Mounianeza, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir. Et pour ce faire, nous accueillons, comme chaque soir, Justine Dibling. Rappel de cette question, Justine, et puis la réponse peut-être dans la foulée.
Donc la question était, Yves Van Lien, aujourd'hui chorégraphe, a été pendant quelques temps une des interprètes phares d'une autre très grande chorégraphe française. Qui est-elle? Et la réponse était Mathilde Monnier.
Et on fait gagner ce soir, quoi donc? Oui, des invitations pour un spectacle de danse, justement Tokyo Dance, 3 solos, 3 danseurs chorégraphes de Tokyo. C'est des places à gagner pour le samedi 24 juin à 20h. Ça se passera à la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui fête ses 20 ans. Quelle est la question, Justine?
On reste dans la chorégraphie. Qui est le chorégraphe japonais présent sur les scènes françaises cette année avec le spectacle Flexible Silence et faisant partie des rares artistes à collaborer avec le Ballet de l'Opéra de Paris?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, envoyez à auditeurfcr@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute passée par Boris Pinault.
Hello.
Et ce soir, le coup de fil est passé au Merlan, scène nationale de Marseille, où se jouera demain la pièce Samedi détente. Bonsoir Dorothée Mounianeza.
Bonsoir, bonsoir.
Vous signez cette pièce armée de toutes vos casquettes. Vous êtes chanteuse, danseuse, chorégraphe et auteur. Samedi détente, c'est votre première création. Elle date de 2014. La pièce se fonde sur vos souvenirs personnels du génocide rwandais. Les massacres commencent en avril 1994. Vous avez alors 12 ans et vous quittez Kigali avec plusieurs membres de votre famille. Samedi détente raconte cet exil, l'enfance, les coups de machette, le sang et l'indifférence d'alors des pays occidentaux et des pays voisins. Comme un contrepoint, le titre de la pièce découle de souvenirs joyeux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce Samedi détente et ce que ça représente pour vous?
Samedi détente, à l'époque, c'était une émission radiophonique qui était destinée aux gens un peu plus âgés que moi à l'époque. Donc, j'avais 12 ans, comme vous l'avez dit. Donc, c'était des jeunes adultes et des adultes plus âgés encore. Et moi, qui étais curieuse et qui voulais savoir ce qui se passait les samedis soirs sur les ondes de la radio pendant Samedi détente, j'ai tendu l'oreille avec mes amis ou les membres de ma famille, les voisins, pour écouter toutes ces musiques qui nous parvenaient des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique. Pendant quelques temps, on écoutait, on chantait au même moment qu'on entendait ces chansons. Et le lundi suivant, quand je retournais à l'école, retrouver mes amis, on mettait en scène ce qu'on avait entendu le week-end précédent. en chant, en danse, on jouait tout simplement sur ces musiques. Et pour moi, quand j'ai pensé à tous mes amis dont la plupart sont morts justement pendant le génocide des Tutsis en 94, je me suis dit qu'est-ce qui nous unissait à l'époque, quel moment heureux on avait vécu dans l'insouciance, parce que Samedi Détente c'était vraiment ça aussi, des moments d'insouciance et d'enfance. Comment en parler, comment parler de cette insouciance qui a été coupée court, cette enfance qui a basculé dans la violence et dans la haine, mais en parlant d'un moment qui était celui qui nous unissait, qui était plutôt léger et festif.
Samedi Détente est une pièce transdisciplinaire et il faut citer le travail du compositeur Alain Bahé qui vous accompagne sur scène pour créer une musique live. Le texte de la pièce, c'est vous qui l'avez écrit et qui le livrez, vous chantez aussi. La danseuse Nadia Begré interprète une danse heurtée, ponctuée de chutes. Il y a une grande énergie tour à tour festive et brutale. Comment il a émergé ce vocabulaire chorégraphique?
Eh bien, Alain Bahé, je l'avais rencontré donc à l'époque quand je travaillais avec François Véret, quand j'avais commencé dans le monde du spectacle vivant et de la danse contemporaine. Et je lui racontais mon histoire, donc ce qu'on avait vécu en 94. Et il m'avait dit un jour, si tu décides d'en faire quelque chose, sache que je serai là pour t'accompagner. Et comme Nadia Begré, je l'avais rencontré sur une pièce d'Alain Buffard qui s'appelle Baron Samedi. Et là encore, j'avais été très touchée par sa manière de bouger, sa présence sur le plateau, sa façon de parler, sa façon de s'engager. Et donc, j'ai invité Nadia pour qu'elle soit le troisième pilier de cette collaboration. Et au départ, je posais toujours la même question. Où étiez-vous en avril 94? La question que je posais et à Alain et à Nadia. Eux m'ont raconté ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Et du coup, Alain est allé chercher dans les archives, notamment là-bas, si j'y suis, de Mermet, où on a sélectionné quelques passages de témoignages, notamment de génocidaires qu'on entend sur le plateau à un moment donné dans la pièce. Il m'a dit à Begré, à qui je parlais de toutes ces personnes que je voyais chuter sous les coups de machette et de balles parfois. Elle a dit, mais c'est peut-être ce vocabulaire-là qu'il faut que je creuse, ce corps qui tombe, ces corps qui tombent à chaque fois et encore, sur plateau. Il y avait une grande dimension, il y a toujours une grande dimension de la, comment dirais-je, de l'improvisation, que ce soit dans la musique et que ce soit dans le corps, dans la chorégraphie, dans le chant également, parce que pour moi, l'improvisation nécessite une écoute particulière des autres et aussi de ne jamais répéter, de ne pas répéter une histoire de la même manière pour pas devenir habitué et donc de devenir insensible et de devenir automatisé dans ce partage et donc de trouver toutes les nouvelles manières d'en parler, de parler de ce qui s'est passé à cette époque et de reconvoquer la mémoire des gens.
Merci beaucoup Dorothée Mounianeza. Samedi Détente se jouera demain au Merlan, scène nationale de Marseille. Et je signale aussi que votre nouvelle création Unwanted sera à découvrir à partir du 7 juillet au Festival d'Avignon. Merci et belle soirée à vous.
Bonne soirée à vous. Merci.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute cinéma en compagnie de Muriel Joudet, Corinne Rondeau et Antoine Guillot, à notre affiche K.O. de Fabrice Gobert, Ava de Léa Misius et L'Empereur du Nord de Robert Aldrich qui lui ressort en coffret DVD et Blu-ray chez Wildside. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.